Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Ce soir, Tempo Classique s'immerge dans l'univers de l'orchestre avec Pascal Lagrange-Chehire, auteur d'un roman intitulé « L'orchestre assassin ». Alors à RCN, quand on parle littérature, on pense tout de suite à Mona, qui anime tous les 15 jours, le jeudi de 18h à 19h, l'émission « Les plumes » et qui ce soir va nous aider à évoluer dans cette enquête menée par les deux protagonistes principaux du roman, Gérard et Valérie. Bonsoir Mona, bonsoir Pascal.
Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Alors avant de plonger dans cet univers qui va nous être détaillé par le menu, faisons un petit peu connaissance avec Pascal. Alors vous êtes originaire des Vosges ?
Eh oui, c'est là que je suis né.
Voilà, et après ?
Et après, j'ai fait un petit tour suivant mes parents, au BG. Oui. Hein. À partir de 5 ans en région lyonnaise, plus le département de l'Ain, et j'ai continué donc mon apprentissage de la musique au départ qui était simple auditeur. Ouais. Depuis l'utérus de ma mère, qui était pianiste, en commençant le piano. Mmh. Puis vers 11 ans, j'ai basculé vers le corps.
Comment on en vient à basculer vers le corps à 11 ans?
Je ne sais pas, lors d'une chute. parce que j'étais très bon pianiste. Non, il se trouve que j'étais pensionnaire, donc voilà, faire... son piano quotidien alors que les copains jouent au ballon. Non,
ouais, le corps n'a pas besoin de travailler, on sait bien.
Ben, quand on est déjà à la musique, au début, c'est un peu plus facile, en effet. Et donc, j'ai commencé le corps au Conservatoire de Bourg-en-Bresse où j'étais pensionnaire, en fait.
Puis après, vous êtes venu à Nancy ?
Puis après, j'ai toujours suivi mes parents.
C'est bien, un bon gamin.
Et j'ai pu, moyennant divers péripéties, il ne faut montrer pas de blanche, pouvoir rentrer en horaire aménagé, donc après les épreuves de sélection du Conservatoire. Mmh. Et puis, j'ai suivi mes copains de Point K.
Oui.
Voilà.
D'accord. Puis après Nancy, c'est Paris.
Après, on espère rentrer à Paris. On essaye plusieurs fois.
On finit par.
On a toujours nos aînés qui nous y précèdent. Alors, on les envie. On se dit comment ils ont fait. Parce que c'est un concours avec beaucoup de candidats. Et ouais. Des fois, il n'y a qu'une place ou des fois cinq. Ça dépend des années. Et ouais, je suis rentré au Grand Conservatoire.
Bah oui, si, quand même, on peut le dire.
Oui, oui, surtout quand on essaye plusieurs fois, on est très content d'y arriver.
Et après, donc, vous avez votre prix au bout de quoi, 3-4 ans, comme tout le monde ?
3 ans,
trois
voilà.
Ans.
La base.
Oui, la base.
J'ai pas redoublé.
Et puis alors, en parallèle, vous commencez à faire des remplacements dans les orchestres ?
Oui, alors ça, j'avais commencé depuis pas mal de temps, en fait. Étonnamment, l'orchestre de Metz m'invitait plus souvent que l'orchestre de Nancy.
Ah, il y a des bizarreries comme ça, dans la région.
Donc j'ai pu jouer Capriccio, des choses comme ça, à Metz.
Oui.
Et puis, il y a eu besoin de moi à Nancy un jour. Il fallait pléthore de cornistes pour un Wagner. Oui. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça, donner quelques cours. Et puis sur Paris, bien sûr.
Oui, là vous avez fait la tournée des Grands Ducs à Paris alors.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir des amis rentrés plutôt que moi dans le circuit ou dans les places d'orchestre qui m'ont invité pour faire du remplacement de maladies supplémentaires. Mmh. Très vite dans les grands orchestres que sont ceux de la radio, l'Opéra de Paris. Donc c'était très satisfaisant et très, très apprenant, j'allais dire.
Ouais, ouais.
Parce que les collègues, mes aînés, m'ont beaucoup appris.
Mmh. J'imagine. Et donc, ça fait 33 ans maintenant que vous êtes corps solo à l'orchestre. Alors, c'est quoi ? Occitanie, opéra ?
Oui, alors au fil des années, quand je suis arrivé, il n'était que philharmonique. Il est devenu national. Et puis, il est devenu une sorte qui s'appelle OONM, Opéra Orchestre National de Montpellier, Occitanie, parce qu'on a fait des grandes, grandes régions jusque Tarbes.
Donc, ça fait 33 ans que vous y êtes.
Oui, ça commence à faire pas mal. Je suis presque le plus vieux des vents.
Ouais.
Le plus vieux des cuivres.
Mmh.
Et voilà, donc ça veut dire que bientôt on va m'ouvoyer à l'orchestre.
Eh ben on va écouter un petit peu cet orchestre.
Thank you.
Voilà, vous avez reconnu Pascal.
Ça a été un grand tube pendant un moment.
Ouais.
Et alors, je ne sais pas quand date cette version, parce que je la trouve lente. Et de quelle année est cette...
Je ne sais pas de quelle année, en tout cas vous êtes dedans.
Bah, j'espère.
Je vous ai vu. C'est Michael Schoenwand.
Ah oui, donc ce n'est pas si vieux que ça. Voilà. Bon, on l'a joué très souvent. Et alors, pour les trompettistes qui nous écoutent, j'ai une anecdote pour cette symphonie. Où Proton Minet, pour le premier service de la semaine, nous jouons ça avec un chef russe. Et le chef russe ne parlait pas français. Donc il commence, il dirige. Puis de temps en temps, il y a des moments d'arrêt, il dit stop. Puis il recommence. Et puis arrivé à la fin, il dit da capo. Alors là, les trompettistes, ils ont changé de couleur.
Eh oui. Bon, on va revenir sur tout ça dans le cadre de votre ouvrage. Mais alors, vous êtes aussi chroniqueur sur un site musical qui s'appelle Res Musica.
Oui, ce site m'a proposé, lors d'une nouvelle rubrique qu'ils ont appelée Opinion, que des voix s'expriment. Mmh. Il n'y a pas que la mienne, donc je ne suis pas chroniqueur exclusif.
Oui.
Et quand il me vient une idée quelconque, souvent c'est je trouve le titre et puis après je développe derrière. Eh bien, oui, j'en ai fait une petite vingtaine de chroniques. Et bon, c'est assez agréable. Le format est contraint, c'est 1200 mots maximum.
Ah oui.
Donc, ce n'est pas trop fait pour les bavards comme moi. Mmh. C'est un exercice. Et puis, et ça me permet de parler de sujets assez variés. Alors, il faut que l'édition accepte que je glose sur telle ou telle chose. Mais des fois, c'est assez philosophique. Pourquoi la musique? Qu'est-ce que la musique fait aux gens, voilà, aux auditeurs? Donc, on peut revenir à l'homme des cavernes qui tape de cailloux. Et pourquoi il fait ça? Et puis, ce qu'on fait nous maintenant, donc une dimension, j'allais dire, un peu anthropologique ou plus sociétale, une analyse. Par exemple, ma dernière chronique, c'est pourquoi, lors d'un concours d'assistant chef d'orchestre, il y a 240 candidats. Interpelle quand même.
Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr.
Donc j'ai comparé ce phénomène avec le pari de Pascal, pas moi-même, mais Blaise Pascal.
D'accord. Et puis alors, à côté de ces chroniques, vous êtes psychanalyste.
Oui, alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on manie les émotions humaines malgré nous quand on joue de la musique.
Oui.
On manipule la nôtre. Quand on est au contact avec le texte, on manipule celle du compositeur, qu'il a couché sur du papier, donc une volonté de vouloir transmettre des émotions ou d'en provoquer. Ça dépend à quel point le compositeur se cache derrière sa composition. Et puis, celle que le public reçoit. Et alors, on fait ça de façon un peu empirique en tant que musicien. Depuis tout petit, on fait de la musique, nos parents nous écoutent, enfin bon, puis ça s'enchaîne. Et d'ailleurs, avec une certaine dimension, on ne se rend pas bien compte que notre métier d'exception, nous, on le fait naturellement. Et en fait, il y en a beaucoup qui aimeraient bien y arriver. Et donc, il y a un peu ce décalage. Donc, de façon un peu naturelle, on manipule les émotions. Et l'analyse, la psychanalyse, m'a permis de les comprendre de façon un peu plus intellectuelle. Et peut-être de mieux comprendre mes contemporains.
D'accord. Bien, alors, votre ouvrage nous ouvre largement les portes de cet univers que vous photographiez en détail, donc, depuis, on va dire, presque 50 ans, quoi.
41 ans.
41 ans,
ouais, hein, quand même.
Alors, vous vous arrêtez sur des détails, les oboïstes qui fabriquent leurs anges, le travail en répétition, des gens qui comptent avec leurs doigts quand ils jouent pas. On parle des différentes tenues que les musiciens doivent porter pour être en cohérence visuelle sur scène. On parle des délégués syndicaux. On vit la manière dont chaque musicien se chauffe, c'est-à-dire se prépare à jouer. On apprend que pour qu'un orchestre joue juste, il faut que les instrumentistes soient accordés sur un même diapason, mais aussi que chaque pupitre travaille sa justesse propre, sans parler des remarques sur la personnalité des chefs d'orchestre, de passage. Bref, on sait pratiquement toute la vie d'un orchestre à la fin de la lecture de ce roman. Alors, un musicien qui sait faire sonner les instruments ensemble, c'est Maurice Ravel. On va écouter le final de sa Rhapsodie espagnole. C'était le final de la Rhapsodie espagnole de Maurice Ravel, l'interprétation de Charles Munch et le Boston Symphony Orchestra.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Pascal Lagrange, vous êtes un fin connaisseur de ce milieu de l'orchestre. Pourquoi on rentre dans un orchestre, d'après vous ?
Je peux répondre que pour moi-même.
Alors, allons-y. Vous n'en parlez jamais avec vos collègues ? Pourquoi ils sont rentrés ?
On veut tous manger, je suppose. Non, je pense que c'est... non, parce que j'ai des amis de conservatoire qui ne voulaient pas rentrer dans les conservatoires, notamment chez les cordes. Puis après, je les voyais jouer dans le métro. Oui. Donc bon... non, alors... puisque Dominique Breda est organiste...
Oui.
ma maman jouait parfois de l'orgue et des fois, il y avait des soupapes qui coinçaient. Donc je rentrais... dans le buffet, aller tirer sur une corde de en métal qui avait bloqué ou des choses comme ça. C'était des étringleries particulières que peu de gens connaissent maintenant qui est électrique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de tuyaux de toutes les tailles, en bois, etc. En métal, hanche double, à flûte, etc. Je me suis dit, mais... moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être un tuyau parmi tous les autres. Et c'est vraiment le rôle d'un musicien au sein de l'orchestre, c'est-à-dire que l'orgue, c'est un instrument, et l'orchestre, c'est un instrument. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs, tout le monde est habillé en noir, pour que ce ne soit pas une succession de solistes, mais une masse qui forme, il ne faut pas l'écouter de trop près. Et je voulais être un des éléments de ce tout que je trouvais magnifique, aussi beau que l'orgue, surtout quand on est à l'intérieur, et puis que l'organiste joue quelque chose d'unique.
Oui, oui, c'est vrai qu'ils vont mieux l'entendre de l'extérieur. C'est quand même recommandé. Alors, comment ça se passe pour les concours d'entrée ? Qui peut postuler à un poste dans un orchestre ?
Alors, en France, c'est très ouvert. Il y a d'autres pays où il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire être invité ou des choses comme ça.
D'accord.
Et en France, on n'est même pas obligé de savoir jouer de son instrument pour présenter un concours. Alors, ça se fait de moins en moins, mais il y a 30 ans, il y avait encore des candidats vraiment amateurs. Qui venaient, qui nous faisaient bien rire, mais qui nous faisaient quand même de la peine.
Oui.
Parce que, bien sûr, ils avaient le trac et tout ça, ça fait mal au ventre. Mais non, ce genre de choses n'existe plus. Mais on ne demande pas de diplôme. Et donc... il suffit, et puis c'est derrière paravent, donc personne ne sait qui est derrière, grand, petit, homme, femme, noir, blanc, handicapé, pas handicapé. Et donc, n'est jugé que le jeu, ce qu'on entend, et si c'est correct, ça passe les tours, et puis de fil en aiguille, l'entonnoir se resserre, et s'il y a une place, on en prend un. Voilà.
Et tout le monde est toujours bien accueilli dans un orchestre ? Quand il arrive, comme
après,
ça
après, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a une période de stage, comme dans toute entreprise. Et il y a, oui, la dimension sociale rentre en compte, parce que le musicien devient un collègue. Et un collègue, c'est des rapports humains. Les chaises sont très proches les unes des autres.
Ouais.
Donc pendant 40 ans, il faut que ça se passe quand même assez bien. Voilà. Mais... sur 40 années, il y a forcément des inimitiés et des amitiés qui se forment. Et la magie de la musique, c'est que nous pouvons quand même jouer assis à côté de nos ennemis.
Oui.
Surtout au concert.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
D'ailleurs, on joue bien avec les chefs d'orchestre.
On en reparlera. Il y a de plus en plus de femmes qui postulent ou qui sont dans les orchestres.
Alors ça, c'est le reflet des mutations sociologiques et des désirs des parents. Si les parents veulent que leur fille ne fasse que de la danse, de la flûte ou du piano, il n'y aura pas beaucoup de femmes qui joueront du tuba ou du trombone. Mais tout ça, c'est en train de changer. Déjà, il y a des repères visuels qui nous parviennent, parce qu'aux États-Unis, les révolutions se sont faites bien avant. Et puis, forcément, comme au niveau des orchestres, n'arrivent que les meilleurs... Et d'ailleurs, les meilleurs hommes ou femmes, on n'en sait rien, parce qu'elles se cachent ou ils se cachent derrière des paravents. Donc, le genre n'est pas un critère de sélection. Et ce qui est le reflet de ce que les parents ont bien voulu laisser faire à leurs enfants ou les conservatoires, ou bien vous le laissez faire aux jeunes filles ou aux jeunes garçons. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile peut-être de s'imaginer qu'un garçon fasse de la harpe.
Et pourtant, il y a des grands harpistes.
Oui, mais il y a une période où ça s'est beaucoup féminisé. Ah oui, et puis, donc, ça surprendrait peut-être plus que le bourgeois qu'un garçon fasse de la harpe que quelques années auparavant. Et donc, en fait, si tout ce cloisonnement disparaît, et moi, je trouve ça très bien.
Oui. Alors, on parlait des chefs tout à l'heure, les chefs femmes.
Bien, les chefs femmes, c'est un peu la même chose, sauf que je pense qu'il faudrait mieux demander aux dames chefs d'orchestre pour qu'elles répondent. Mais il y a quand même une dimension, comment dire, ça reste compliqué quand même.
Oui.
Peut-être que le dernier obstacle, il se situe au niveau des femmes chefs d'orchestre. Pas parce qu'il y a de mauvaises chefs d'orchestre ou qu'elles ne sont pas assez nombreuses à prétendre, mais je pense que c'est quand même compliqué de rentrer dans une structure qui est très typée 19e siècle.
Mmh.
Et il faut s'autoriser. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. Et je pense que le premier frein, il est dans le cœur, j'allais dire, de la femme chef d'orchestre.
Voilà. D'accord. Comment on fait pour garder la flamme à l'orchestre en devenir un fonctionnaire de la musique ?
On essaye de ne pas devenir alcoolique, déjà. Parce que j'en connais beaucoup, malheureusement. Et sérieux, il y a des traditions chez les cuivres, de buveurs de bière, ou choses comme ça.
Ou de
festoyer à la sortie du concert, ou des choses comme ça.
Avec modération, toujours.
Et le musicien est enthousiaste.
La modération peut être à différents niveaux.
Et non, il n'y a pas trop... Plus... Quand j'étais plus jeune, il y avait plus d'alcooliques. Il y en a quand même beaucoup moins. La flamme, c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude à rejouer un peu toujours les mêmes pièces. Le public est plus versatile que le musicien sur une période de 40 années de carrière.
Mmh.
Il m'avait été dit une fois qu'il y avait beaucoup, que ça sentait la naphtaline. Alors je dis, mais vous ça, à l'orchestre ou ça ? Non, non, regardez le public.
Ah oui.
Je dis, ah mais vous savez, moi ça fait 40 ans que je travaille, ça fait 40 ans que je joue pour les vieux. Je pense que les vieux d'il y a 40 ans, ils sont morts, et les vieux de maintenant, c'est des nouveaux vieux. Et donc ils découvrent le répertoire, et moi je le joue et rejoue. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une usure, mais il y a quand même la magie. Et si cette osmose est là... on vit toujours des grands moments.
Ouais, puis un plaisir personnel aussi de se produire comme ça.
Alors c'est étonnant, mais il y en a qui préfèrent la répétition au concert et d'autres l'inverse.
Ah oui. Bon, quand vous êtes sur scène, vous avez le trac ? Il y a des gens qui prennent des petits cachous ?
Oui. C'est moins tabou qu'avant. Hein.
Oui.
Ouais. C'est... Il y en a qui en prenaient tous les jours. Hein. Il y en a qui étaient alcooliques parce qu'ils avaient le trac. J'ai connu un musicien dont je tairai le nom par charité musicale, qui arrivait très très tôt dans son orchestre. Et en fait, c'est parce qu'il fallait qu'il cuve, quoi.
Ah oui.
Voilà. Et il y en a beaucoup, et d'ailleurs ça a écourté des carrières, qui ont combattu le trac avec l'alcool, et c'était pas le bon choix. Finalement, la chimie est peut-être mieux.
Ouais.
Après, le trac, il est circonstancié, ça dépend de la difficulté qu'on doit assumer. Mais il ne disparaît pas avec l'âge.
Et vous travaillez tous les jours, votre instrument ?
Ah, moi je travaille tous les jours. Et puis plus je vieillis, plus je travaille.
On devient conscient.
Non, c'est-à-dire que... en fait, c'est le croisement de deux courbes. Donc on est jeune et en forme, mais on est inexpérimenté. Et puis donc la jeunesse décroît et l'expérience monte. Donc il y a un optimum quand les deux traits se croisent. Et puis après, il s'éloigne à nouveau. Donc il faut compenser par le travail parce que la physiologie change pour le corps ou les trompettes. Les lèvres changent, la langue change et il faut toujours s'adapter.
Ouais. La sauce prend à tous les concerts ?
Non.
Non, hein ?
Non.
Vous vous en rendez compte ?
Ben, des fois, il y a une anecdote. Deux Russes, un chef et un soliste au piano. Et c'est grand, la Russie. Apparemment, ils n'étaient pas copains. Ils ne devaient pas être dans le même conservatoire. Et lors des Rachmaninov, une cadence à rallonge, le chef descendait de l'estrade au concert, pendant que le pianiste faisait sa cadence, et il remontait. Non, il y a plein d'anecdotes comme ça. Où... Mais la musique est quand même là. Mais bon, dans le spectacle, ça peut se voir.
Bien, on va écouter un tout petit peu de musique avant que Mona prenne la parole. Beethoven. C'était l'ouverture de Léonore III de Beethoven dans l'interprétation de Daniel Barenboim à la tête du Westminster Diwan Orchestra. Pascal, vous en pensez quoi de ce genre d'orchestre ?
Ben c'est magnifique. Ouais. C'est risqué, mais bon. Ça l'est encore plus aujourd'hui. La musique réunit tout le monde. Et bien sûr, on aimerait bien s'affranchir des guerres et des conflits et des... Et donc, non, c'est une magnifique initiative. Faire rejouer Wagner de ce côté-là de la Méditerranée, ouais. C'est compliqué. Faire se marier des peuples qui se font la guerre au travers de la musique. Daniel Barenboim, il y a eu beaucoup de courage.
Bien, je passe la parole à Mona.
Merci. Alors Pascal, vous êtes donc Corsol à l'Orchestre de Montpellier, vous êtes également psychanalyste. Alors quel a été l'élément déclencheur, l'idée initiale qui vous a fait passer du statut de musicien psychanalyste à celui d'écrivain de ce roman L'Orchestre Assassin, publié aux éditions Inédit ?
La transmission.
D'accord.
Je voulais faire découvrir ce monde qui est le mien, et de tous ceux qui font la même chose que moi, et sans le pervertir, mais quand même montrer l'autre côté des feux de la rampe. C'est très impressionnant, la première fois que j'ai fait un concert, notamment donc, dans cette salle qui est le Corum à Montpellier, avec 2000 places devant soi, 2000 places pleines à l'époque. Et c'est... Oui, j'étais un peu déstabilisé par cette masse qui nous observe. Et puis c'est cette lumière qui crée une sorte de filtre, une brume entre le public et nous, qui nous isole, et ça contribue peut-être au trac. Donc moi je voulais transmettre ce métier de façon un peu pédagogique peut-être trop, je ne sais pas, sans lui nuire, sans enlever de sa magie, mais pour moi il n'y avait pas d'ouvrage qui transmette ça, qui relate ça. Et je connaissais que deux ouvrages sur l'orchestre. Donc il y a un qui s'appelle L'Orchestre nu de François Dupin, qui était tabalier à l'Orchestre de Paris, qui date de 1980. Alors qui date déjà quand même, qui dépeint un orchestre qui a une autre position sociale que les orchestres, même l'Orchestre de Paris aujourd'hui qui n'a plus cette position de 1980. Et puis, qui n'est pas vraiment un livre qui rentre dans l'intime de ce qu'éprouve un musicien d'orchestre. Et puis un autre livre qui s'appelle Au cœur de l'orchestre, qui est écrit par François Christian Merlin, qui a un titre un peu abusif parce que Christian Merlin n'est jamais au cœur de l'orchestre. Mais bon, il en parle en détail à sa façon. Et alors là, c'est beaucoup plus pédagogique. Il a une grande culture. Il est allé à beaucoup plus de concerts que moi. Je n'en ai plus joué. Mais c'est pas vraiment écrit d'intérieur. Donc je me suis dit, au moins en langue française, je n'ai pas lu tout ce qui existe, mais enfin, il faudrait faire ça quand même.
Mmh. Alors aviez-vous dès le départ la volonté de mêler musique et polar, ou cela s'est imposé au fil de l'écriture ?
Disons que si j'avais fait le livre sans le côté polar, il aurait peut-être été lassant. Surtout que ça couvre presque 30 années de la vie de ce Gérard Sicot, là, tromboniste, et dans cet orchestre imaginaire, hein. Mmh. Attention, il n'y a pas de personne connue. Je n'ennuie avec personne. Et donc, j'ai rajouté une intrigue qui crée le fil rouge temporel dans le. Alors, bien sûr, tout est vrai, sauf les morts.
Alors, dans quelle mesure votre expérience personnelle a-t-elle nourri la description de la vie de l'orchestre ? Les répétitions, les rivalités, les rituels, etc. Alors, le portrait est-il fidèle, voire sans concession ?
Fidèle, oui, sans concession probablement, j'ai un œil un peu sévère. Je suis, tout comme le tromboniste, en tant que corniste, assis au fond de l'orchestre, donc je vois tout le monde, voilà, tout le monde de dos, sauf la chef d'orchestre, tout le monde, une grosse partie de trois quarts, mais, ou de profil, mais je vois un peu, et puis en plus, la configuration fait qu'on est en hauteur. Il y a juste le tabalier qui est, ou les percussionnistes qui sont derrière nous. Et c'est un bon poste d'observation, une sorte de tour de contrôle.
Mmh. D'accord. Alors, L'Orchestre Assassin est un roman noir qui dépeint un nombre élevé de décès à un âge précoce dans l'orchestre. Alors, le genre policier vous permet-il d'aborder des questions structurelles sur la précarité ou la dureté de la vie de musicien d'orchestre que vous explorez aussi dans vos chroniques ?
Alors la précarité, je ne parle pas des intermittents trop, enfin un petit peu, mais pas beaucoup, pas de leurs conditions actuelles en tout cas. D'ailleurs, le livre est décalé, il commence en 1974, une époque, j'allais dire, bénie. tout du moins, oui, que j'aurais aimé vivre, parce que je pense que c'était une sorte... les orchestres en France vivaient leur optimum autour de cette période. Mm-hmm. Parce qu'avant, il n'y en avait pas, ça s'est constitué. Il y a ce qui s'est passé après les orchestres de radio, quand l'ORTF s'est dissous, la restructuration, le remaillage des orchestres en France. Donc, il y a toute une évolution. Et puis, bon, maintenant, ça flotte un peu. Et oui. Les convictions politiques pour créer des orchestres sont plus molles, pour les soutenir également. J'ai préféré transposer une époque un peu plus idéale, idéalisée par moi, peut-être. Et puis, donc c'est tout ça que je dépeins là-dedans, avec aussi un conservatoire de Paris, National Supérieur de Musique de Paris, qui était à l'époque celui à l'Europe, rue de Rome et rue de Madrid. Où beaucoup de mes contemporains ont rêvé d'aller, et ils sont allés. Donc ça fait un lien intergénérationnel.
Mmh. Alors pourquoi avoir choisi Gérard Sicot, tromboniste dans l'orchestre, alors que vous êtes cor ? Pourquoi un trombone ?
Pour pas trop recentrer sur moi quand même. on dit toujours que... Il se dit toujours que l'auteur parle de lui-même, bien évidemment. Donc j'ai voulu décaler, un peu, faire un pas de côté, comme on dit. Pas trop loin, pour qu'il soit toujours observateur de l'orchestre. Présent assez souvent, parce que si ça avait été... le tuba ou un instrument hétéroclite qui vient, une saxophone par exemple, qu'une ou deux fois par an dans un orchestre, ça aurait pas été très représentatif. Et puis c'est un instrument proche du corps, donc avec les mêmes règles du jeu quasiment.
Mmh, d'accord. Et donc vous avez choisi aussi ce genre d'instrument parce qu'effectivement, il voit tout ce qui se passe dans l'orchestre.
Exact.
C'est sa position qui est intéressante.
Oui.
Alors l'orchestre d'Avalon. Et la ville, Sont-elles purement imaginaires ou y a-t-il des aspirations réelles, comme le suggère le nom Avalon avec un seul L, en lien avec la légende arthurienne ou la ville d'Avalon avec deux L qui se situe dans Lyon ?
Non, ben là c'est Arthur, hein, donc oui. L'orchestre est complètement imaginaire. On ne sait toujours pas où est Avalon des Chevaliers de la Table Ronde, que j'avais lu d'ailleurs. Enfin, j'avais... Et il y a beaucoup de morts dans les Chevaliers à Table Ronde, et celui qui veut le lire demain, je l'invite à les compter. Parce que je regrette, je ne le lirai pas une deuxième fois, je regrette de ne pas l'avoir fait. Oui, ça permet de mettre une ville un peu à l'ouest de la France, et puis dans une ville où il y a une ville imaginaire. Donc ça permet de laisser flotter son imagination. Mais quand on construit un récit... plein de références s'imposent et puis ça permet de structurer un espace dans lequel les personnages évoluent. Oui.
On a beaucoup de prouvés dans votre ville d'Avalon.
Oui, alors il y a des références bien sûr culturelles et c'est un peu un jeu aussi, puis ça permet de construire quelque chose.
Alors les membres de l'orchestre forment une sorte de micro-société où la musique devient un terrain de tension voire de rivalité. Alors, quelle place tient la notion d'ego dans votre récit ? Est-ce l'un des moteurs du drame qui se noue dans cet orchestre ?
Étonnamment, l'ego, il ne se situe pas chez pour les lecteurs. L'ego le plus fort ou le plus dramatique ne se situe pas forcément chez les musiciens. Et en fait, les musiciens, comme je le disais, d'être un des tuyaux d'orgue, un des instruments de cet orchestre, ce métier demande d'être humble.
Oui, mais justement, dans votre récit, on sent bien que quand même que certains musiciens, du fait qu'ils aient obtenu leur titularisation, c'est un peu leur bâton de maréchal et qu'ils ont, je dis pas qu'ils lorgnent un peu vers le chef ou vers autre chose, mais ils n'ont pas non plus toujours eu la carrière qu'ils voulaient. Ils ont privilégié la sécurité.
Bon, on en est tous là. Hein. Mm-hmm. Déjà, faire des concours d'orchestre et puis plusieurs et les réussir tous, je ne connais pas beaucoup qui y arrivent.
Hein. Oui, non, mais il y en a qui préfèrent être un peu plus libre, ne pas avoir de contrat et faire des remplacements tout le temps.
Ça, c'est la tendance actuelle. Mm-hmm. Oui, il y a de moins en moins de candidats au poste actuellement dans les orchestres et beaucoup plus de gens qui préfèrent le statut d'intermittent pour cette liberté, peut-être illusoire à la longue. Hein. Mm-hmm. Ils prennent leur responsabilité avec leur destin. Personnellement, moi, ça me choque parce que j'étais désireux de sécurité. Déjà, même au sein d'un orchestre institutionnel, c'est pas garanti à vie, hein, mm-hmm. parce qu'il suffit que des collectivités locales, responsables culturels, s'entendent plus pour que les structures s'effondrent. Hein. Ou du moins se rétrécissent, que les budgets se diminuent.
On en parle un peu en ce moment.
Oui, on en parle en ce moment. Et en Allemagne, alors ils partaient de loin, mais il y a une grosse partie des orchestres qui a disparu. Hein.
Oui, je sais.
Ils en avaient beaucoup. C'était très bien. Mais bon, eux aussi, ouais, musiciens... Le problème, c'est que musiciens... à part écrire des livres, mais ça ne nourrit pas. Un musicien n'est pas vraiment recyclable. Hein. Mmh. Donc, il investit des dizaines de milliers d'heures de sa jeunesse dans un métier qui peut parfois commencer tôt, et il ne saura faire que celui-là.
Oui, mais il faut rappeler aussi qu'il faut qu'il paye son instrument.
Alors ça, c'est extraordinaire, ça. Mmh. Allez travailler dans le bâtiment, achetez vous-même votre partopiqueur ou votre pelleteuse, alors que là, il faut qu'on achète notre instrument de travail. Mmh. C'était pas le cas avant. Hein. D'ailleurs, quand j'étais... étudiant, j'avais des collègues qui avaient des instruments, cordes notamment, avec une belle marqueterie derrière ou de la peinture, offert à Tartampion, premier prix du conservatoire ou instrument de l'orchestre de Bidule, etc. Et tout ça, c'est fini. Hein. À part les contrebassistes de l'orchestre et les timbaliers, tout le monde achète son propre matériel et. Bon, ça permet de le choisir. Mais bon, y a pléthore de Gand et Bernardel. Il y avait 80 contrebasses à l'Opéra de Paris pendant un moment. Et les luthiers étaient très fiers de dire qu'ils étaient fournisseurs exclusifs de l'Opéra de Paris ou de l'Orchestre de Radio France. Tout ça, ça a disparu.
Alors, quelle a été la plus grande difficulté dans l'écriture de ce roman ?
De ne pas dire de bêtises. Je l'avoue, j'ai pas de grosses difficultés à écrire pour le moment. et j'ai beaucoup d'imagination. Donc la difficulté, c'est de cadrer mon imagination peut-être pour que, étant donné que le livre a quand même pas mal de personnages, que ça se passe sur plusieurs années, qu'il y a une sorte de calendrier, c'est-à-dire qu'il y a des dates pour chaque chapitre, eh bien, il ne faut pas se mélanger les pinceaux.
Mais quand vous avez commencé à écrire ce roman, vous aviez déjà la chute ?
Non.
Non, ça s'est imposé au fur et à mesure de l'écriture ?
En fait, une fois, j'ai écouté une émission de radio qui était une rediffusion d'un auteur dont j'ai oublié le nom, de langue française, de roman, et qui a dit cette phrase qui m'a marqué. Quand j'écris un mot, je ne sais pas quel sera le suivant. Oui. Alors je me suis dit, si lui, il peut écrire comme ça, moi aussi. Alors je me suis autorisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut s'autoriser à chef d'orchestre, il faut s'autoriser à être psychanalyste, il faut s'autoriser à écrire, c'est déjà la plus grosse étape. Puis après, on voit ce qui vient.
Alors si vous deviez associer l'Orchestre Assassin à une œuvre musicale, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?
La symphonie des agneux.
Bon, y a même pas besoin d'explication du coup.
En fait, j'ai découvert des œuvres en écrivant, parce que j'ai cherché des ressources quand même. Étant donné que je parle d'un sujet qui n'est pas de la fiction, qui n'est pas de la science-fiction, donc il n'est pas possible d'inventer n'importe quoi, eh bien, j'ai cherché des œuvres qui soient en conformité avec l'effectif de l'orchestre que j'ai inventé, là, hein, qui n'est pas un orchestre de 110 musiciens, 120 musiciens, qui joue une symphonie de Mahler, ou qui joue Masse de Bernstein, par exemple, ou la symphonie des Mille, toutes les semaines. Donc, il fallait cadrer avec cela, il fallait cadrer avec ce festival de musique française que j'ai inventé et qui est des œuvres. Et donc, j'ai trouvé des œuvres inédites. Il y en a d'autres que je connaissais, bien sûr. Il y en a que je connais, mais que je ne jouerai jamais. Et qu'on ne joue quasiment jamais, que nous jouons quasiment jamais. Donc, voilà, ça a été fait sérieusement.
Je ne dis pas le contraire. Mais ça ne vous a pas fait de la peine de tuer autant de musiciens?
Oh, ça c'est drôle. Non, il fallait les tuer de manière cohérente parce que la cause de leur décès a quelque chose de commun. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches.
Alors, vous êtes également l'auteur de l'essai « Regard sur le spectacle vivant français » et chroniqueur donc pour Res Musica, avec des articles incisifs comme « L'orchestre, chronique d'une mort annoncée » ou « Très chère intermittence ». Alors, le roman a-t-il été un moyen plus créatif d'explorer ces mêmes thèmes critiques ?
C'est au lecteur de le dire, ou à la lectrice. Non, je voulais vraiment dépeindre l'intériorité du musicien, de son vécu, de ses émotions. C'est un livre immersif. Celui ou celle qui le lira sera aussi savant que moi. Et j'espère qu'il aura les mêmes émotions que celles que je vis au concert. Ce n'est pas un livre social.
Non.
Non, 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 je ne pense pas. Il y a toujours, bien sûr, je dépeins un groupe social avec des habitus, avec des pratiques. Un lecteur m'a dit, on boit beaucoup de bière à Avallon.
Alors, en tant que musicien classique, vous connaissez la rigueur et la discipline donc exigée par la pratique d'un instrument. Avez-vous appliqué la même rigueur à votre processus d'écriture ?
Oui, parce que comme j'écris de façon très instinctive, sur du papier avec un stylo, et très mal, si j'arrive à me relire, mais disons que je ne fais pas trop attention. Ce qui compte, c'est le flux des idées qui puissent s'écouler. Donc après, il y a un gros travail de structuration quand je retape sur l'ordinateur, puis après j'imprime, et puis après je corrige la version imprimée, et puis après je fais beaucoup d'échanges avec l'éditeur. Qui a aussi son regard sur ce qu'il a envie de publier, de raccourcir, c'était plus long, et puis de structurer également. Mais la forme que j'ai choisie imposait déjà une certaine structure avec cette espèce de calendrier. Et je fais quand même beaucoup de travail personnel quand même.
Oui, bien sûr. Alors pourquoi avoir choisi d'étaler le roman sur de si nombreuses années ?
Pour qu'il n'y ait pas un mort par jour.
Effectivement, c'est une bonne raison. Mais du coup, ça fait moins polar, accrocheur.
Oui, c'est le côté polar, c'est l'accessoire.
Oui, c'est l'alibi.
C'est l'alibi qui permet d'écrire un univers. Et puis, il y a quelque chose de très répétitif dans notre métier. Toutes les semaines, concert. Et d'ailleurs, ça transparaît dans le livre. Les musiciens s'oublient eux-mêmes. Ils oublient celui qui a disparu, qui est mort, qui revient parce qu'il a été malade quelques mois. Comme s'il n'avait pas eu d'importance avant, alors qu'ils étaient super amis, c'était le collègue, c'était le chef de pupitre vénéré, j'allais dire. Mais en fait, il y a une sorte d'usure de cette mécanique où nous jouons de la musique de compositeurs morts, la plupart du temps. Nous sommes un peu enferrés dans ce passé, dans ce 19e siècle, 18e siècle. Et donc il y a un côté, c'est pour ça que le roman est noir, il y a un côté morbide quand même là-dedans, de jouer de la musique de morte. Avant, du temps de Verdi, la musique contemporaine, ça s'appelait Verdi. Oui. Du temps de Bach, du temps de Mozart. Et un jour, ça a cessé. Donc on fait un métier étrange quand même.
Oui, vous baignez dans un drôle d'univers, effectivement. Alors, une dernière question. Vous avez déjà d'autres projets d'écriture ?
Alors, il y a un roman qui est en correction, oui. En lecture chez mon éditeur qui a publié. Donc, c'est Fabienne Germain qui est cette directrice d'édition, qui fait ses sélections. Elle m'a fait un grand cadeau quand elle a décidé. Alors, c'est la première fois que j'entendais ça. Elle m'appelle et dit oui, je vais publier votre livre et sachez que j'ai tout lu. Donc elle a lu le livre en entier. Voilà. Et alors déjà, quelqu'un qui postule, qui candidate à l'édition en envoyant son manuscrit, à qui on répond, vous savez, j'ai tout lu, c'est déjà un grand cadeau. Voilà. Et donc elle a ce nouveau roman en lecture et puis en parallèle, il est dans les mains d'une spécialiste de la virgule, de la syntaxe et de l'orthographe pour le parfaire. Et puis, on verra ce que ça donne. Nous verrons, tous ces lecteurs et moi. Mais il est écrit, le mot fin est mis à la fin.
C'est un polar aussi ?
Non. Ah, c'est... comment dire ? Ça parle de Freud. C'est autour de Freud. C'est autour de la pensée de Freud. J'ai imaginé le livre que Freud n'a pas osé écrire, le dernier. Et c'est un peu... Ça ressemblerait peut-être à Da Vinci Code.
D'accord.
Une sorte de Da Vinci Code autour de Freud, au lieu que ce soit autour de Jésus. Enfin, de la fille de Jésus, la dernière descendante, pour ceux qui ont lu le livre.
D'accord. Eh bien, merci, Pascal. Je rends la parole à Dominique.
Merci, Mona.
Merci, Mona.
Merci, Pascal. Vous êtes un musicien heureux, quand même. Ça a l'air, en tout cas.
Oui, mais pas naïf.
Ah bah oui, mais c'est...
Pas plus, je l'ai été longtemps.
Oui. Pour beaucoup d'entre vous, ce que Pascal vient de nous dire correspondra probablement à un monde nouveau, mais je vous propose d'écouter, pour terminer cette émission, la symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak. Enfin, un extrait. C'était un extrait de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Marcena Diakoun. Eh ben merci Joris pour la technique. Et puis restez bien à l'écoute de RCN, il se passe plein de choses, notamment l'émission de Mona, Les Plumes, le jeudi de 18 à 19h. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission.